voudrais vous raconter l'histoire de la facilité, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un ancien de l'adolescence. Il a passé le plus clair de ses années lycée à avoir peur de rougir. Monter sur l'estrade, c'était monter sur l'échafaud. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne fut pas facile, son adolescence française. Une vie à passer au tableau, le rouge au front et les oreilles cramées. Une vie à oublier jusqu'au sujet de l'exposé, à perdre ses moyens et ses mots. Il s'est tellement planté qu'il a fini par en tirer une forme de confiance. Au fond, on n'en meurt pas. Et quand on part de si bas, on ne peut que s'améliorer. C'était il y a quoi, 20 ans, 25 ans ? Aujourd'hui, son métier, c'est de parler. Il enchaîne les conférences comme Benzema, les buts en championnat. Et aujourd'hui, sans même une pensée pour l'adolescent qu'il fut, il vient de prendre la parole. Il a commencé par une blague qui a marché tout de suite. Les 200 personnes se sont marrées et il s'est senti autorisé à commencer par une digression. Cette digression, on a appelé une autre et puis une autre encore. Et les 200 personnes ont arrêté de rire. Elles se sont mises à sourire. Sourire d'un beau sourire, doux, séduit, attentif. Et lui, il est porté par tant de sourires et de douceur. Il ne parle plus, il vole. Il vient de rejoindre son sujet et d'entrer dedans comme un surfeur dans sa vague. Ses idées s'enchaînent sans aucun effort. Il n'a rien à faire qu'à les accueillir, les laisser se déployer, raisonner, faire le job toute seule. Elle s'appelle, elle s'enlace, elle se répond. Et quand arrive sa thèse, quand sonne sa conclusion, il est comme sonné. Surpris de tant de fluidité, de limpidité, de flot. Surpris de tant de facilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis la boule au ventre de son adolescence ? Est-ce qu'il a compris un truc ? Était visité par le dieu de l'éloquence ? Est-ce simplement qu'il s'est entraîné jusqu'à atteindre les fameuses 10 000 heures ? Est-ce qu'il a rencontré le bonheur ? Est-ce qu'il a cessé de vouloir pour entrer dans le désir, dans la lumière de son désir ? Est-ce simplement qu'il a appris à s'en foutre, à cesser de se mettre la pression ? Pour en parler ce matin, de la facilité et du relâchement, de la grâce également, de la grâce et de la présence, j'ai la joie de recevoir Olivier Pouriol, romancier, scénariste, créateur de cinéphilo, enseignant en philosophie, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à réfléchir à cette belle question : comment réussir sans forcer ? Comment atteindre la facilité ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Olivier Pouriol, bonjour.
Bonjour Charles.
Vous allez bien ?
Ça va.
Je suis très heureux de vous recevoir. D'abord parce que ça fait 20 ans que je lis vos livres. J'avais commencé par vos romans, Méphisto Valse, Le peintre au couteau, et puis après vos essais de philosophie. Je dois même reconnaître et avouer aux auditeurs que certains de vos concepts m'ont influencé, notamment votre distinction entre choisir et décider. Et puis cette phrase d'Alain, c'est vous qui me l'avez enseignée, quand vous m'aviez dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Autrement dit, il y a des moments où il faut y aller facilement. Et donc, vous avez sorti un livre, il y a un an, je dirais,
oui,
et puis qui sort aujourd'hui en poche, enfin en ce moment, et qui porte pour titre, justement, « Facile », sous-titré « Comment réussir sans forcer ». Alors, on vous écoute.
Ah, d'accord.
Vous avez une heure.
Ça fait un peu sujet de dissertation. Non, c'est parti d'un désir de partager des trucs glanés, au cours des années à réfléchir à comment atteindre des buts quand on écrit, parce que écrire c'est difficile. Donc là, le livre s'appelle Facile parce que justement ça parle de tout ce qui est difficile. Et comment ne pas se noyer dans une difficulté, comment ne pas renoncer et comment ne pas se contenter de taper sur la difficulté en pensant qu'à force d'insister on va la résoudre. Parce que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie intellectuelle ou dans la vie professionnelle, quand une difficulté se présente, la tentation c'est de faire montre d'un sérieux scolaire, d'une obstination, de faire des efforts, voilà.
Ouais. Et c'est pas bien les efforts.
L'effort, par définition, est contre nature. Et s'il est contre nature, on a l'impression qu'en souffrant, on va mériter. Et on va mériter de résoudre la difficulté, alors que souvent on ne fait que l'aggraver. Voilà, c'est comme un nœud sur lequel on tire au lieu d'essayer de le comprendre, de le laisser vieillir, de prendre la bonne distance, la bonne attitude. Donc là, j'ai glané ça en allant aussi bien voir chez Bergson, chez Descartes, chez Deleuze.
Chez Philippe Petit, l'équilibriste.
Chez Philippe Petit, comme
vous. Chez Yannick
Noah,
chez Pete Sampras.
Exactement. Et chez également Alain Passard, chez des cuisiniers, chez Hélène Grimaud, chez Glenn Gould, voilà, chez Giacometti aussi.
Alors, il y a beaucoup de réponse à la question comment réussir sans forcer, comment trouver cette facilité, ce flow, cette grâce. Mais j'ai l'impression que il y a quand même deux chemins. Un chemin, on va dire, d'un travail sans effort pour arriver à une forme de naturel et de grâce. Et puis un chemin peut-être plus de ruse. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette distinction des deux chemins ?
Oui, et ça dépend de quel domaine on parle. C'est-à-dire que la difficulté, faut pas dire la difficulté, faut comprendre quel genre de difficulté on affronte. Si c'est, par exemple, apprendre une langue, on ne pourra pas faire l'économie de se baigner dedans. Et là, on aura deux approches, soit l'approche scolaire qui insiste, qui répète, soit l'approche que prône Yannick Noah et qui fonctionne bien.
J'aime bien ce philosophe.
Oui, c'est un philosophe, post-mortem, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini et sa carrière tennistique, il a compris comment il aurait dû faire pour mieux la réussir.
Je vous interromps quand même si je sais qu'il ne faut pas le faire à la radio, parce que quand même, dans votre livre, vous racontez qu'un an avant Roland-Garros, en 1982, il a gagné un tournoi en finale après avoir passé une nuit entière à se déchirer la tête en boîte de nuit, et que finalement, ça lui a donné la facilité. Expliquez-nous ça.
Disons qu'il devait se coucher tôt, en garçon sérieux, c'était un samedi soir, puis des copains lui disent « viens, on va boire un verre », et le verre devient plusieurs verres qui finissent par ne plus se compter, et il se retrouve dans le caniveau à 7h du matin, à moitié nu.
Je crois que le match était à midi ou 13h.
Oui, c'est ça, donc il va se coucher, enfin il essaye de se coucher, il va dormir 2h, il demande de l'aspirine, du café noir, et il va jouer dans un état second. Ouais. Il gagne, c'est une finale.
Et il gagne facilement.
Il gagne sans se rendre compte de ce qu'il fait. Mais justement, c'est parce qu'il s'est beaucoup entraîné qu'il peut laisser parler le corps. Et Philippe Petit, le funambule, dit la même chose. Il dit pas qu'on ne commence pas par la facilité. La facilité, c'est intéressant quand on est quelqu'un qui travaille trop. Et une fois que le corps a appris, il faut lui faire confiance. Donc la facilité, c'est rarement un point de départ. Ça peut être un point d'arrivée. Et ça suppose un détour, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut essayer de désamorcer ou de désarmer l'idée qu'on a de l'effort. Et donc par exemple, si vous apprenez une langue, il va falloir apprendre des mots, il va falloir vous baigner dedans, et il y a un moment où ça deviendra facile, mais d'abord ce sera pénible évidemment, parce que tout est nouveau.
Mais donc il y aura une logique d'effort à un moment quand même.
Il y a une logique d'effort au départ, oui. Et quand c'est une langue. Mais après, il y a d'autres domaines où l'effort ne sert à rien. Par exemple, chez les athlètes, la vitesse est une donnée physiologique, génétique, et même si on s'entraîne, on ne pourra jamais rivaliser avec ceux qui sont naturellement doués. Donc la question, c'est premièrement, ne pas s'obstiner dans des domaines compétitifs.
Repérer son domaine, en fait.
Voilà, son domaine.
S'écouter, donc, se faire confiance.
Et après, on a le droit également si on a plaisir à l'effort, parce qu'il y a aussi un plaisir physique à souffrir, il y a des gens qui courent parce que ça leur est difficile, et l'idée de conquête, ils ont besoin du point de vue de leur imaginaire, ils sont heureux d'affronter quelque chose. Et je parle beaucoup de Bachelard dans ce livre que j'aime beaucoup, Gaston Bachelard, qui parle du plaisir lyrique qu'il y a à imaginer un effort. Et donc par exemple, si vous imaginez que votre poing percute un mur et le fracasse, même si vous ne le faites pas réellement, vous aurez une satisfaction imaginaire. Et c'est pourquoi les enfants, quand ils voient les héros, les super-héros casser des choses, par exemple Hulk rend des services psychiques aux petits-enfants. Les petits-enfants préfèrent Hulk à Spider-Man, et puis en grandissant, ils préfèrent Spider-Man qui est plus surfeur, qui glisse sur le mobilier urbain, qui prend appui sans casser. Donc à chaque âge, c'est plaisir imaginaire. Et ce qui est certain, c'est que pour ma part, je trouve qu'en vieillissant, on a du plaisir à imaginer que glisser entre les choses est plus efficace que les affronter brutalement de face.
Mais ça veut donc dire que la connaissance de soi, au fond, est le prérequis. Puisque vous avez dit, il faut connaître sa zone, savoir où est-ce qu'on peut être bon, où est-ce qu'il y a une limite qu'on ne pourra pas dépasser.
C'est-à-dire, oui, il faut une forme de lucidité sur les limites. Moi, j'aime beaucoup Albert Camus, qui est un philosophe qui a pas eu beaucoup de succès chez les philosophes quand il s'est piqué de philosophie. Mais c'est quelqu'un c'était un grec, c'est-à-dire qu'il faisait l'éloge de la mesure. La connaissance de soi, c'est plutôt la connaissance de son environnement et de la relation au corps qu'on a, à l'esprit qu'on a et à ce qui nous entoure. Il y a un moment où il faut prendre acte du réel. Et si on n'est pas fait pour courir, ça sert à rien d'insister, il faut pas se ridiculiser.
Même si on s'entraîne 10 000 heures, parce que dans dans votre livre, donc facile, vous évoquez cette théorie des 10 000 heures, une théorie assez connue, selon laquelle tous ceux qui sont très bons dans leur domaine, qui arrivent à la facilité, que ce soit les Beatles, Rimbaud, Mozart, qui vous voulez, c'est une étude qui part de violonistes, en fait, à l'origine, de musiciens, ils ont tous 10 000 heures de pratique. L'étude est assez intéressante, parce qu'on voit qu'il y a des très très bons violonistes, il y en a qui sont excellents, il y en a qui sont virtuoses. Et on s'aperçoit que les très bons, ils sont juste profs de violon dans les familles, ce qui est déjà très bien, et ils ont en gros 6 000 heures. Les excellents, ils sont demandés dans tous les orchestres et ils ont 8 000 heures. Et puis les solistes stars, ils ont 10 000 heures. Alors ma question est simple, est-ce qu'il suffit d'avoir 10 000 heures pour atteindre la facilité ?
Eh bien non, et d'ailleurs il y a... Alors ça, j'ai découvert en lisant un livre de Malcolm Gladwell, que j'aime beaucoup, qui est un journaliste du New Yorker, et qui fait des livres qu'on appelle de non-fiction, mais qui sont d'excellents livres, qui fait du journalisme intellectuel. C'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup en France. C'est ni de la philosophie, ni du journalisme. C'est on prend une idée, et on enquête pour voir comment elle est apparue, et comment elle a changé la vie de certaines personnes.
Et c'est ce qu'il a fait avec cette théorie des 10 000 heures, qui vient d'un psychologue.
Qui s'appelle Erickson, mais pas le Erickson très connu, un autre, enfin je crois, hein. J'ai pas relu mon livre avant de venir, mais je crois que c'est ça. C'est une enquête assez restreinte, c'est sur quelques dizaines de musiciens d'une excellente école allemande. Donc il y a un premier biais, c'est qu'on ne prend que des gens qui ont déjà réussi, qui sont déjà sélectionnés. Donc évidemment, ils ont fait des heures, mais ils sont déjà excellents. Et ensuite, il y a quelque chose que, quand on regarde cette étude de près, ce qui est intéressant, c'est entre les très bons et les excellents, il y a une différence, c'est que les excellents se reposent plus, par exemple.
Ah oui.
Ouais. Et c'est là que c'est étonnant. C'est-à-dire, il y a un biais, mais en même temps, on découvre quelque chose. C'est que ceux qui sont vraiment, vraiment hors normes, intègrent davantage de repos.
Et, bien sûr, c'est le secret, d'ailleurs, de Federer, Nadal et Djokovic. Ils ont des temps de récup, de break plus grands.
Alors, bon, je sais pas pour le tennis, mais en tout cas, sur ces musiciens-là, sur ce domaine-là, l'hypothèse des 10 000 heures reposait sur l'idée de mérite. Et il y a un journaliste, un photographe, en fait, au départ, qui a pris Malcolm Gladwell au sérieux, qui a essayé d'appliquer à sa propre vie, dit, tiens, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je vais me mettre au golf.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre pour les auditeurs, c'est que 10 000 heures, c'est pas tant que ça, hein. Si vous aimez quelque chose, que vous en faites 5-6 heures par jour, au bout de 5 ans, en gros, vous avez vos 10 000 heures. Alors, c'est vrai qu'on est très nombreux dans nos métiers à avoir 10 000 heures.
Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il suffit pas de passer du temps, c'est des heures de pratique délibérée. Donc c'est pas simplement se contenter de suivre un cours, etc. C'est les heures qui comptent lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau et que ça vous est difficile. Et ces heures-là, par exemple, des mathématiciens comme Poincaré, qui a donné son nom au fameux institut de mathématiques, Henri Poincaré, considérait qu'on ne pouvait pas être attentif plus de 2 à 4 heures par jour.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est 10 000 heures en pleine attention.
En pleine attention.
C'est 10 000 heures en cherchant à progresser. Et j'aurais presque envie d'ajouter, c'est 10 000 heures en aimant ce qu'on fait.
En aimant souffrir parce qu'on a un but. Donc si vous devez compter les heures que vous passez assis à un bureau à essayer d'écrire et vous dites ben je travaille 10 heures par jour, la réalité est bien différente. Vous devez passer 8 heures par jour à essayer d'écrire, à prendre des cafés, à vous lever, à tourner autour, et vous passez peut-être 2 heures à écrire. Et la question, c'est comment faire pour intégrer cette idée d'une variation de l'attention, de l'impossibilité de travailler longtemps. Ouais, alors que l'école nous dit qu'on peut être 6 ou 8 heures d'affilée attentif, c'est faux. Et le philosophe Alain, que j'aime beaucoup, dit « l'attention bat comme un pouls ». Et il faut intégrer cette idée que même l'attention n'est pas comme un faisceau lumineux qu'on pourrait projeter de manière constante sur ce qu'on essaye de penser ou de comprendre. Et il faut intégrer cette variation, ce rythme, et la sagesse que vise en fait les praticiens de l'attention, c'est d'accepter l'idée que...
Qu'elle
est flottante. Et ceux qui font des efforts, même très difficiles, même les rameurs par exemple, entre deux coups de rame, se relâchent complètement. Les sprinteurs, si vous observez au ralenti, on voit leurs joues qui flottent comme ça, parce qu'il y a un grand relâchement qui alterne avec des grands efforts.
C'est très beau ce que vous dites, l'attention bat comme un pouls. Ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser, il ne faut pas se mettre trop la pression en voulant être tout le temps attentif, voire tout le temps concentré. On pourrait aussi d'ailleurs s'intéresser à cette distinction entre la concentration focalisée et l'attention partagée, qui est une ouverture au monde, dont parle aussi très bien Simone Veil dans La pesanteur et la grâce, Simone Veil que vous évoquez à la fin de votre livre. Mais ce que vous avez dit sur le sport, ça me fait penser à quelque chose de très intéressant, qui est le service au tennis. On pourrait croire que le service, donc tout le monde voit le geste du service, même si vous n'êtes pas tennisman, et en fait, il y a un relâchement à l'heure de l'impact, à la seconde de l'impact, c'est comme si on lâchait le manche de la raquette au moment où la raquette frappe la balle et après on rattrape le manche. Donc en fait, on n'est pas dans une crispation insistante, mais dans un relâchement qui va permet d'arriver à cette facilité.
C'est la même chose pour les boxeurs ou pour les arts martiaux, où il y a le moment de l'impact qui est aussi bref que possible, sur une surface aussi petite que possible, de manière à concentrer l'impact et arriver avec un grand relâchement. Et vous avez même une technique de kung-fu, je crois, ou de boxe chinoise, la technique de l'homme ivre, c'est-à-dire qui donne le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un qui est ivre, parce qu'il est tellement relâché qu'il a l'air mou, il a l'air de ne pas maîtriser ses gestes, et soudain il y a l'impact qui paraît sortir de nulle part, un peu comme l'éclair sort du tonnerre, ou sort de l'orage qui s'amasse.
Ou comme finalement la flèche part dans le tir à l'arc. Tous les théoriciens du tir à l'arc confirment ce que vous dites, à savoir que quand on vise la cible, on ne peut l'atteindre qu'à la condition d'avoir cessé de la viser après l'avoir visée. C'est-à-dire comme si on était surpris par le moment où la flèche part. Et si on n'est pas surpris, si quelque part ça n'est pas sa décision, alors on va rater sa cible.
Oui, alors c'est presque plutôt un style d'attention qui... moi, c'est mon professeur Hubert Grenier qui m'avait appris ça. Il disait, voilà, ceux qui visent ratent. J'ai dit, bon, pourquoi? Oui. Mais parce qu'en fait, si on pense qu'on doit viser, quand on vise, on pense qu'on pourrait rater. Donc dans le fait de viser, l'idée de l'échec est incluse. Alors que si on ne pense pas à viser et qu'on est en présence d'une cible, si la cible se met à dicter sa loi, alors le moment où la flèche part, c'est le moment où elle a déjà atteint son but. Alors,
c'est très beau ça.
Alors c'est très beau, évidemment. Pour ma part, c'est impraticable. Je ne suis jamais arrivé à le faire. Et le tir à l'arc japonais est l'art martial ultime. Et même à ceux qui sont déjà excellents quand ils commencent, il faut 20, 30, 40, 50 ans de pratique avant d'arriver à cet état. Donc la question, c'est comment cette métaphore ou cette idée peut, à notre niveau, à notre échelle, dans nos vies, devenir une pratique. Et Simone Veil, donc, que vous avez évoqué, l'élève d'Alain, parle de l'attention comme effort négatif. Et elle dit cette chose très, très belle. Donc elle écrit ça dans un texte qui s'appelle L'attente de Dieu. Moi, je ne suis pas croyant. Et elle dit que ce texte ne s'adresse pas que aux croyants, ne s'adresse pas aux croyants. S'adresse à ceux qui ont un esprit et qui essayent de comprendre ce qu'est être attentif. Elle dit la chose suivante. Elle dit, quand on dit aux enfants, faites attention, on les voit se crisper. Il y a une espèce de barre au milieu du front et comme ça, il y a une espèce d'effort musculaire. Et quand on leur demande ensuite à quoi ils ont fait attention, ils sont incapables de le dire parce qu'ils ont juste fait semblant de faire attention pour faire plaisir au professeur. Et elle dit, voilà, le problème de l'école, c'est que ça vous apprend à faire semblant de faire attention. Et comme la crispation épuise, vous finissez fatigué et la fatigue vous fait croire que vous avez travaillé. Alors que c'est l'inverse. Le vrai travail ne demande aucun effort. Donc elle dit c'est un effort négatif. Et on ne peut pas tenir ça plus de 20 minutes. Parce qu'au bout de 20 minutes, on commence à forcer. Donc il dit faut apprendre à ne pas chercher à travailler plus de 20 minutes d'affilée. Et pour Montaigne, c'était encore plus bref. Alors qu'il écrit des essais conséquents, oui, plusieurs milliers de pages. Lui, il tenait 5 à 6 minutes. Il dit ouais, c'était son... Donc c'est ça, se connaître. C'est savoir combien de temps on est capable d'être attentif. Alors évidemment, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les écrans, les machins, on a l'impression que c'est une pathologie adolescente ou enfantine. En réalité, c'est la nature même de notre attention qui varie. Et il faut essayer de s'observer pour ne pas forcer. C'est-à-dire les moments où on ne peut être que inattentif, il faut accepter le creux de la vague et attendre que ça remonte.
C'est très beau cette idée de réussir sans forcer, réussir aussi à accepter que la tension flotte, mais flotte joliment. On va méditer tout ça en écoutant Dolly Parton.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. decide to do Jolene.
C'était Jolene, Dolly Parton.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Olivier Pourriol et nous essayons d'approcher l'énigme de la facilité. Et justement, Olivier, j'ai choisi pour vous ce morceau Jolene parce qu'elle l'a écrit en une demi-journée, hyper facilement, sans forcer. Est-ce que ça s'entend ?
Je suis pas bon juge, mais c'est vrai qu'on entend souvent ces histoires, notamment pour des chansons comme ça, pop, rock, l'idée que c'est aussi la circonstance, c'est-à-dire que quand ils ont un studio et qu'il y a quelques heures pour enregistrer, soudain l'inspiration arrive. Un peu comme Fellini disait, quand on lui demandait où il trouvait son inspiration, il disait qu'il l'a trouvé dans les contrats. Et le fait qu'il y ait une date limite fait que, à un moment, on doit trouver une idée, donc elle vient.
Voilà. Est-ce que ça, vous seriez d'accord avec l'idée que la facilité est l'accueil d'une immaîtrise, mais rendue possible uniquement par une maîtrise ?
Oui, alors mais par exemple pour Philippe Petit qui
donc le funambule
voilà mais qui a beaucoup réfléchi sur c'est quand même on peut pas imaginer plus difficile que marcher en équilibre sur un fil à des dizaines ou des centaines de mètres de haut
puisqu'il sans sécurité.
Sans sécurité, exactement.
Donc puisqu'il... pour préciser pour les auditeurs, il l'a fait par exemple entre les tours du World Trade Center.
Ouais.
Donc c'est vraiment des zones extrêmement risquées. Il n'est donc, il a réussi avec facilité.
Il n'en est pas mort, voilà. Il l'avait fait avant entre les tours de Notre-Dame, mais à l'époque, ça avait juste fait un petit article dans François, je crois. Ouais. Donc, nul n'est prophète en son pays. Mais il a beaucoup réfléchi sur cette question de l'autodressage, si on peut dire. Et parce qu'il dit pas que c'est facile d'être funambule. Il dit que c'est plus facile de travailler pour ce qu'on aime que de subir une contrainte externe. Et il dit, je crois au fouet. Donc, il croit à la difficulté du travail, mais uniquement s'il est tenu par l'élève et pas par le maître. Et c'est ça, en fait.
Vous voulez dire par son propre désir et pas par le désir de l'autre?
Non, ben, par soi-même. C'est-à-dire, en effet, c'est-à-dire, si on a quelque chose à accomplir, si on rêve d'accomplir quelque chose, tous les efforts qu'on fera seront beaucoup, beaucoup plus faciles. Et c'est la même chose, même pour les chiens de traîneau, par exemple. Il y a un entraîneur de chiens de traîneau qui a remarqué que l'entraînement ne fonctionne pas pour les chiens de traîneau. Le dressage ne fonctionne pas. Il y a ceux qui aiment tirer le traîneau et ceux qui n'aiment pas. Et quand il y a ceux qui n'aiment pas, on ne peut rien faire. On peut les
donc
entraîner.
Il s'agit quand même, pour être dans cette facilité, d'écouter sa nature. Quand même, finalement.
D'écouter sa nature et de l'inscrire dans une nature plus vaste.
Parce dans qu'en l'environnement, fait, vous dites.
S'observer soi-même ne suffit pas. Il faut s'observer soi-même en essayant. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir à l'avance si la guitare, c'est pour moi. Si je n'essaye jamais, je ne saurais pas. Donc il faut essayer beaucoup de choses et ne pas renoncer trop vite, parce qu'il y a toujours le moment du travail. Et donc la facilité, elle est plus facile à conquérir si on aime, évidemment, le moment du travail.
Alors je vais lire un passage de votre livre. Donc dans votre livre, il y a des très belles pages justement sur la pratique, sur la progressivité, sur l'amour de ce qu'on est en train de faire, hein, aussi la confiance vient en faisant. Là, c'est un extrait de Philippe Petit lui-même que vous citez au début de votre livre. Et après, je voudrais que vous essayiez de nous éclairer sur ce qu'il appelle faciliter lui-même. Je m'approche du bord, donc Philippe Petit funambule. Je passe par-dessus la poutre métallique. Je place mon pied gauche sur le câble. Le poids de mon corps repose sur ma jambe droite ancrée au flanc du bâtiment. J'appartiens encore au monde matériel. Si je fais passer très légèrement le poids de mon corps à gauche, ma jambe droite sera libérée. Mon pied droit ira librement à la rencontre du câble. D'un côté, la masse d'une montagne, une vie que je connais. De l'autre, l'univers des nuages, si plein d'inconnus qu'il nous paraît vide. Trop d'espace. Entre les deux, un fil sur lequel mon être hésite à distribuer un peu de force qui lui reste. Autour de moi, aucune pensée. Trop d'espace. À mes pieds, un câble, rien d'autre. Un hurlement intérieur m'assaille. Le désir primal de fuir. Mais c'est trop tard. Le câble est prêt. Mon cœur est si violemment attaché à ce câble. Chacun de ses coups y lance un écho. Un écho qui renvoie dans le néant chaque pensée qui tentait une approche. D'un pas décidé, mon autre pied se pose sur le câble. Envahi de stupéfaction, d'une peur aussi extrême que soudaine, oui, d'une grande joie et d'une grande fierté, je me tiens en équilibre sur le fil avec facilité.
Oui. Et toute la difficulté a consisté, donc là il parle du moment où il va se lancer quand même dans le vide entre les Twin Towers. Il a passé la nuit à dormir caché sous une bâche parce qu'il y avait de la surveillance. Donc il a mal dormi, il a porté du matériel, il s'est introduit de manière subreptice, illégale. Et tout son problème, avant de faire ce premier pas, c'est de régler son imagination. Et sa peur, parce que la peur, c'est toujours avant, évidemment, c'est comme quand vous arrivez place de l'Étoile, si vous êtes jeune conducteur et que bon, ben, vous savez pas trop comment y aller, avant d'y être, vous avez peur, une fois que vous y êtes, bon, vous débrouillez parce que vous devez agir. Et donc le moment de la facilité, c'est une fois qu'il a osé faire ce premier pas, qu'il n'a plus le choix, il n'y a plus de retour en arrière, soudain, la facilité, elle est conquise, bien sûr, il s'est entraîné, c'est pas à notre portée, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'aucun de nous ne sera funambule. Peut-être une personne, mais la question, c'est comment régler sa pensée pour qu'elle ne devienne pas un obstacle. Et c'est ça la question, la facilité. Toutes les difficultés, la plupart des difficultés sont imaginaires. Bon, bien sûr, le réel résiste, mais la première résistance vient de nous, les premières résistances. Et la question, c'est comment on règle ça. Et d'ailleurs, Philippe Petit lui-même, il a réglé ça en faisant ça de manière illégale. Parce que si c'est illégal, on est en train de fuir, donc on pense à fuir et non pas à ce qu'on va devoir faire en marchant sur le fil. Fuir quelqu'un qui vous surveille, se cacher, etc. C'est remplacer la grande peur par plein de petites peurs qui sont elles affrontables.
Ça me rappelle une méthode d'un philosophe que j'apprécie beaucoup, dont je parle souvent, c'est André Agassi. Vous savez, André Agassi...
J'aime beaucoup son livre Open.
Bah oui, c'est un très grand livre, c'est une très très grand livre, je ne dis pas ça en plaisantant. Et c'était exactement la même méthode que Philippe Petit pour être dans la facilité. C'est que dans le money time, le moment de pression, en fait, il se concentrait sur sa perruque. Pour faire diversion par rapport à sa peur. Parce que personne ne savait qu'il avait une perruque, tout le monde pensait que c'était des vrais cheveux blonds décolorés. En fait, il était chauve, il avait une perruque qui tenait avec une sorte de colle, mais qui finalement tenait bien, mais il s'obligeait à penser au fait qu'elle pouvait tomber, et comme ça, il oubliait l'enjeu du match, et il jouait relâché, il jouait facile, et il gagnait avec une incroyable facilité. C'est ce que vous dites au fond.
Alors ça, c'est un conseil que donne Descartes dans le Traité des Passions, il dit que comme on ne peut pas supprimer la peur directement, il faut jouer passion contre passion, donc là, il joue la peur de la honte contre la peur de perdre. Et ça fonctionne, donc c'est une espèce de négociation interne. Mais c'est pas exactement ça la facilité, parce que quand il a enlevé sa perruque et qu'il a assumé d'être chauve, et
oui,
puis qu'il assume dans la première phrase de son livre, c'est « J'ai toujours détesté le tennis oui. », comment, une fois qu'il n'a plus de raison de jouer, comment il va trouver du plaisir à jouer. Et c'est plutôt ça sa conquête, c'est comment il
Mais la réponse est magnifique, vous la connaissez.
C'est ?
Ah bah la réponse, elle est incroyable. C'est qu'il a... Il a eu une révélation sur l'amour, en fait, une nuit que son meilleur ami a failli perdre sa fille d'un accident de voiture. Et donc, elle était entre la vie et la mort. Lui, il était en train de décliner, il avait vécu d'autres défaites, il était plus numéro un mondial du tout. Il avait fait une dépression suite au fait de comprendre ce que vous venez de dire. Et puis, quand il roule vers son ami pour essayer de le retrouver, pensant que sa fille peut mourir, il comprend qu'en fait, le but d'une vie, en tout cas de sa vie, c'est de donner de l'amour aux gens qu'il aime et qui en ont besoin. Et alors, il va décider, grâce à cette révélation, un peu comme une épiphanie, de reprendre le tennis, mais cette fois pour financer une fondation.
Oui, pour financer
pour
des
créer
hôpitaux,
une fondation et financer l'éducation pour les enfants américains qui n'ont pas accès à l'éducation. Et c'est pourquoi il va réapprendre à aimer le tennis et à jouer si facilement, parce que cette fois, ce qui l'intéresse, c'est pas le tennis lui-même, c'est ce que le tennis offre comme possibilité, à savoir financer la fondation André Agassi, qu'il finance toujours aujourd'hui, avec beaucoup, beaucoup d'argent et avec Steffi Graf.
Alors, c'est à la fois un exemple de comment on peut rendre plus facile quelque chose qui n'était que pénible. Et en même temps, c'est une astuce extérieure qui pour moi, montre qu'il n'était pas fait pour le tennis. Et ce qui m'intéresse plus, c'est au-delà des exemples qu'on prend là, de champions, de gens qui font des choses exceptionnelles, c'est comment nous, gens normaux, qui n'avons pas d'ambition athlétique, comment...
Faut vous parler pour vous.
Ah oui, peut-être pour vous, mais alors c'est tard pour une carrière de tennis, faut se lancer. On cherchait tout le temps à être exceptionnel, à réussir. Vous voyez, par exemple, le sous-titre du livre, c'est « Réussir sans forcer ». Mais réussir, ça veut pas dire réussir par opposition aux autres, ça veut pas dire les écraser, ça veut dire simplement comment atteindre un but sans souffrir de manière inutile. Ça veut pas dire que le travail va devenir facile, mais ça veut dire que si votre travail, si vos buts sont fidèles à votre imaginaire, vous aurez un bonheur même à travailler. Donc ce sera plus de la souffrance imposée de l'extérieur, ce sera quelque chose que vous avez choisi, dont vous comprenez le sens et qui en effet va faciliter les moments difficiles.
Mais c'est très beau ça dans votre livre, mais d'ailleurs les exemples qu'on prend, et vous dans votre livre, Zinedine Zidane, Pete Sampras, Rimbaud, Mozart, et moi dans ma parole récemment, ne sont pas du tout faits pour écraser tout un chacun. Je pense qu'on peut vraiment mettre ça en application, et d'ailleurs c'est très beau dans votre livre quand vous évoquez le rêve avec Gaston Bachelard, l'imaginaire. Ça me rappelle cette chanson de France Gall, « Viens, je t'emmène », je l'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. Et vous nous expliquez que finalement, ce rêve, cet imaginaire, peut préparer au fond le travail de la volonté, au point que cette volonté sera plus comme ça une insistance contre-productive, mais quelque chose de plus souple en fait, de plus doux. Et j'aurais quand même envie de dire que peut-être pour arriver à cette facilité, il s'agit pas non plus de cesser de vouloir, parce qu'on continue à vouloir, mais... Je voudrais vous proposer une thèse. Est-ce que la facilité, ce n'est pas de réussir à vouloir, mais dans la fidélité à son désir ?
Alors, je sais que vous êtes attaché à cette idée de désir qui vous tient et qui peut être le but d'une quête psychanalytique, par exemple, de trouver son désir qui serait masqué par ce qu'on a reçu et qui viendrait l'obscurcir ou l'empêcher. Plutôt que connaître son désir, je me réfère à François Roustan, le psychanalyste qui a commencé lacanien, donc beaucoup dans l'analyse du langage, dans le récit, et puis finalement qui est devenu hypnothérapeute parce qu'il s'est aperçu que c'est pas parce qu'on comprenait son malheur qu'on arrivait à l'amoindrir. Donc il y avait des gens très conscients des causes pour lesquelles ils souffraient, mais qui souffraient toujours autant. Donc il s'est dit, bon, quel intérêt hein, moi. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Il suffit d'un geste ». Et il s'est dit, tiens, voilà, par exemple... Mettons, vous avez peur de plonger dans une piscine ou vous avez peur de prendre l'avion. Deux approches. Soit on va vous obliger à plonger dans une piscine, à affronter votre peur et à finir par la dompter. Mais lui, son approche, c'est de dire, bah, si vous avez peur de plonger dans une piscine, plus vous y plongez, plus vous allez renforcer cette peur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut faire à l'inverse. Trouver la position dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans un fauteuil, par exemple, essayez de trouver la position où vous êtes absolument confortable. Et cherchez, faites une petite recherche. Peut-être que le poignet, là, il n'est peut-être pas bien positionné. Peut-être que les jambes ne sont pas croisées de la bonne... Trouvez la position où vous êtes confortable. Ne vous posez pas d'autres questions. Et si vous trouvez cette position, dit-il, vous serez alors en état d'agir véritablement une fois que vous aurez oublié tout désir.
Ouais.
Et ça, c'est très étonnant.
C'est de l'auto-hypnose ? C'est de la sophrologie ?
Non, parce qu'on n'a pas besoin en fait d'être dans un état second. C'est plutôt, si on supprime nos désirs, si on supprime nos volontés, si on ne se demande pas quel but on est en train de poursuivre, si on renonce à tout but autre que trouver une position confortable, de cette position confortable viendra une vraie action qui vient dans la situation présente. Et là, bah, vos peurs vont disparaître, parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de les résoudre, vous allez partir du confort, et donc, il suffit d'un geste. Et si vous trouvez le bon geste, vous allez résoudre des difficultés sans effort. They said I rap like a robot, so call me rap. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket, my pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat nap from that rap profit, made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office, with Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC still as honest, but as rude and as indecent as all hell. Syllables, killaholic, kill them all. This libbity, gibbity, hibbity, hip-hop. You really wanna get into a piss and match with this rapity rap pack and the Mac in the back of the yak backpack. Rap, rap, yap, 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 giddy, yak, nap. The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that, I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots to crack it in. Alors quand on écoute Eminem, ce flow hallucinant, c'est de la facilité ça aussi. Comment vous l'interprétez cette facilité-là ? C'est difficile à dire parce que là on parle de talent en fait, de talent musical, de rythme. Il n'y a pas grand-chose à interpréter, on peut juste constater. Et quand vous prenez des artistes, c'est souvent le cas, quelqu'un qui invente quelque chose, on ne sait pas s'il y est pour grand-chose. On sait qu'il essaye de cultiver son talent, de travailler, mais c'est évident que ce n'est pas en travaillant qu'on arrive à...
C'est quand même, c'est 10 syllabes par seconde, c'est une extrême dextérité, une extrême habileté. Et en tout cas, il a ses 10 000 heures de pratique de hip-hop largement. Et il y a aussi autre chose, il y a une souffrance et qui a été exploré presque jusqu'au bout, et peut-être quand on arrive à ce bout, la facilité nous récompense.
Alors c'est délicat parce que quand on explore la souffrance, on peut aussi y sombrer. C'est Hélène Grimaud, la pianiste, qui
dont
raconte,
vous parlez dans votre livre,
qui raconte comment elle avait un talent naturel et voilà, pour elle ça se passait bien. Elle avait ce que vous appelez un flow, quelque chose, voilà, une nature.
C'était facile. Donc.
Et c'était facile. Elle a commencé facile et puis elle a rencontré Gideon Kremer, je crois, un grand violoniste, un grand penseur de la musique aussi, parce qu'il y a parfois des artistes qui savent penser leur pratique, c'est pas incompatible, surtout chez les musiciens, et qui l'a rendue consciente des difficultés de la musique et de ce que c'était une interprétation. Et au lieu de jouer sans y penser, elle s'est mise à penser ce qu'elle allait jouer, et elle s'est retrouvée dans un trou, en fait, dont elle n'a pas pu sortir parce qu'elle était non pas habitée par des pensées transverses, mais habitée par des pensées préalables qui l'empêchaient de commencer à jouer. Et les loups l'ont guérie de ça. Quand on dit c'est la pianiste des loups, ouais. Non, elle n'a pas commencé avec les loups. C'est de retrouver un lien instinctif avec des animaux dangereux quand même.
Et aussi de cesser de penser un petit peu.
C'est d'avoir en fait un exemple physique d'instinct, de facilité, de nature, pour conquérir une seconde nature. C'est ça qui est difficile. Quand vous créez quelque chose, vous êtes un humain, vous avez une nature, il faut créer une seconde nature. C'est pareil pour les athlètes. Il faut arriver à faire quelque chose naturellement, comme si vous étiez né avec, alors que ce n'est pas le cas. Et elle raconte que c'est ça qui l'a sorti de la difficulté. Glenn Gould, qui est un grand à la fois théoricien de la musique et pianiste, quand il avait une difficulté, lui, il avait mis au point quelque chose qui ressemble à cette astuce pour ne pas penser la difficulté et pour ne pas sombrer dans un problème, c'est de jouer sans pouvoir s'entendre. Donc il mettait la télévision, la radio à fond, il jouait le morceau qui lui posait problème, et il s'est aperçu la première fois qu'il a fait que ça a marché. Première fois, il a fait un peu par hasard. S'il ne s'entendait pas jouer, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il ne faisait pas attention? Est-ce que parce qu'il a laissé faire ses mains? Mais si on ne s'entend pas jouer, dans certains cas, on va jouer mieux.
Alors, je ne sais pas si c'est la méthode qu'a employé le rappeur Giorgio, mais nous allons l'écouter.
Espérer un paradis quand tu reviens des enfers. Les mensonges créent des légendes, mais pas des hommes légendaires. J'ai comblé le manque par l'excès, abusé du bon comme du mauvais. Non, le monde n'est pas injuste, il est juste comme on l'a fait. Tu sais, le succès ça isole, mes rêves d'enfant dans ma camisole. Tu peux aligner des mots sans rien dire de toi. On se voit tous les jours, on se connaît pas. Liguer les uns contre les autres, l'égoïsme en mode survie. Et si on veut que ça bouge, c'est pour les nôtres. C'est maintenant, il faut pas attendre ici. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tendes, 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 me tendes la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Et sans doute qu'il y a quelque chose en toi qui t'éloignerait des doutes et de Pôle emploi. Une envie, une passion, une découverte, une promesse, une rencontre, une phrase toute faite. On espère des jours meilleurs, de gagner au loto sans même y jouer. On se contente de financer l'amour en produits dérivés. Se mettre à prier sans même y croire, pendant qu'on consomme de belles histoires. Les enfants du monde nés pour s'aimer, ont divisé la terre en territoires. Changer l'eau en vin, le plomb en or, trouver des plans cul comme réconfort. Nos cœurs et nos esprits en désaccord, alors on sort la nuit, on s'évapore. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tendes, 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 me tendes la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Dans nos cœurs il fait froid. Dans nos cœurs il fait froid. C'est pas un film qu'on vit, non. Arrête ton cinéma. Dans nos cœurs il fait froid. Je pense à ces débounards, Laramie, Mouchine, Adama, Ange du Binécha. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que tu me tendes, 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 me tendes la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien. J'attends que
tu me tends, 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 me tends la main. Pour l'instant je danse, 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 je pense à rien.
C'était Giorgio Danse.
Sous le soleil de Platon.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Charles Pépin, sur France Inter.
Alors Olivier Pourriol, qui vous avez écrit ce très beau livre, facile, ce conseil-là, vas-y, pense à rien et fonce, c'est un peu ce que chante Giorgio, je danse, je pense à rien. C'est aussi celui que vous donnez dans le sillage de Descartes et d'Alain, hein. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre, c'est de décider et non pas de choisir rationnellement.
Oui, avec cette précaution, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'y mettre, il y a des domaines où on a le droit de réfléchir, mais quand ce n'est pas décidable par l'entendement, alors il faut choisir, moi j'appelle ça le syndrome du menu quoi, au restaurant, si vous avez un menu trop vaste, vous ne savez pas quoi choisir, et vous allez souffrir, parce que comme dit Descartes, l'irrésolution est le pire des maux. Et donc une manière de se soulager d'avance, c'est de décider quand on ne peut pas savoir à l'avance si le choix sera bon ou pas, c'est de choisir au hasard s'il le faut, et de s'y tenir. Donc oui, il y a des circonstances, mais ça ne marche pas pour tout. Il faut faire attention quand même.
Alors votre livre nous conduit doucement à la métaphore de la mer. Ça tombe bien, on est en plein été. La fluidité, la mer, quelque chose de comme ça, qui coule, quelque chose qui glisse. Est-ce que la facilité, c'est de l'ordre du liquide ?
La facilité, c'est de l'ordre du rythme. C'est-à-dire, faut accepter l'idée que s'il y a une tension, il faut qu'il y ait un relâchement et que dans le relâchement se préparera l'efficacité du geste suivant. De la même manière que la mer, les vagues montent et descendent. Et Simone Veil, donc avec un W, hein, celle qui est morte en 1943, dont on parle depuis le début de cette émission, trouvait que il y avait dans la mer un secret de sagesse, parce que même dans l'histoire, elle écrit ça en 43, donc il y a encore Hitler, et elle dit mais le nazisme, oui, il est haut mais il redescendra, donc ça marche aussi comme métaphore pour se dire que ce qui va mal redescendra, ce qui va bien remontera. Mais sur la qualité, enfin la mer comme élément, parce que j'ai écrit ce livre au bord de la mer il y a 2-3 ans
et, en Grèce je crois,
oui, entre autres, et j'aime beaucoup la mer, je ne saurais pas analyser pourquoi, mais j'ai essayé un petit peu dans ce livre de comprendre pourquoi c'est un modèle de sagesse, parce qu'il y a cette idée de rythme, de haut, de bas. Si on est en bas, il faut savoir que ça remonte, si on est en haut, il faut savoir que ça descend, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité et de l'espoir en même temps. Et il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse, même, comment dire, si on essaye d'inventer quelque chose, c'est Alexander Grothendieck qui écrit ça, qui est un génie mathématique, très très singulier, et qui a écrit des mémoires de plusieurs milliers de pages, et il dit voilà, quand on a un problème à résoudre, il parle de mathématiques, hein, si ce problème, on considère qu'il ressemble à une noix très dure, il dit soit il y a la méthode du burin, et on pourrait dire du bourrin, qui consiste à prendre un marteau et à taper dessus avec un burin, et voilà, on fait un effort, on essaye de casser la noix. Il dit mais ça, souvent ça ne marche pas, parce que il y a des noix trop dures, et pour ces noix trop dures, on a une autre méthode, c'est la mer. C'est-à-dire qu'on met la noix dans la mer, et on la laisse se ramollir par le contact du liquide. Mais si on écoute ce que ça veut dire premièrement, il ne faut pas se concentrer justement sur la noix, il faut avoir quelque chose de plus vaste, il faut l'inscrire dans un environnement plus vaste pour la comprendre. Et puis il faut se donner du temps, parce qu'en reculant, on ne va pas s'obstiner à taper dessus, on va se donner du temps et il va y avoir un ramollissement progressif.
Allez, on se lance. On y va, on s'élance, on tente sa chance. On s'ébroue, on se secoue. On se dénoue, on secoue le cocotier, on y va. On se donne un coup de pied au cul, un coup de pied au derrière, on agite la fourmilière. Allez, on réfléchit plus, c'est trop tard. Il faut vivre et pas avoir vécu, allez, on y va. On sort du plumard, allez, debout, droit dans ses bottes, comme on dit dans l'armée, qui ne nous tente pas, qui ne nous fait pas envie. On est le caporal de personne, on est le général d'une armée mexicaine. Personne derrière, personne devant, juste nous. Droit, comme la justice, si elle existe. Allez, on y va. On se lance, on va pas dans le décor. On évite la mort. On soigne sa sortie, on réussit son entrée. Allez, on y va. En avant. Regarde-toi dans le miroir, t'es pas si mal.
Allez, Olivier Pourriol, vous allez nous commenter ça. Comment il fait pour être aussi facile ? C'est de l'impro, hein. L'impro, est-ce que c'est pas un bon exemple de ce que vous évoquez dans votre livre ? Et est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose comme une liquidité qui est conquise
Si, après il y a des heures de pratique, on sent qu'Edouard Baird a fait ses classes probablement la nuit tard dans les bars, aidé par l'alcool et la musique. D'ailleurs, il a besoin de la musique derrière pour faire cette espèce de slam. Il arrivait à un point de facilité où il découvre probablement ce qu'il va dire en commençant à le dire. Il rattrape sa phrase. Et c'est intéressant parce qu'il parle de caporal, et disons de le caporal de personne. Et Bergson, lui, parle de la méthode du caporal opposée à une autre méthode qui est celle d'Edouard Baird, en fait. La méthode du caporal, c'est celui qui veut dresser le cheval en le forçant, en le menaçant, en le frappant. Vous voyez, c'est une méthode de masse, quoi. On va apprendre au cheval, on va le dresser, on va lui faire mal. Et vous avez l'autre méthode, qui est celle d'Edouard Baird, qui est celle que Bergson recommande pour apprendre à faire du cheval sans le violenter. C'est de suivre le mouvement du cheval, de se dire qu'on n'a pas besoin de commencer une phrase, elle est déjà commencée, mais on peut essayer de la poursuivre. Voilà, on va suivre le mouvement du cheval. Et Edouard Baird, là, en fait, il monte sur un cheval qui consiste à ouvrir la bouche sans savoir ce qu'on va dire, essayer de sauver la phrase qu'on a commencée. Et puis on voit, il a tout un système de rimes, de rythme. Et voilà, c'est une méthode d'invention. Comme les jazzmen, ils ont la main gauche qui fait la basse et puis la main droite qui improvise.
Mais alors, il y a une question quand même qui se pose maintenant. C'est, est-ce que la facilité est simplement quelque chose que je vais trouver en moi à force de 10 000 heures, à force de pratique, à force de connaître mon environnement, vous l'avez bien dit, de me connaître, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu plus quelque chose qui pourrait être au fond métaphysique? C'est-à-dire que je m'ouvre à quelque chose qui va me traverser. Je suis comme plugué sur quelque chose de plus grand que moi. Peut-être même est-ce simplement la vie que j'accueille avec facilité.
Alors, juste pour, parce qu'on a évoqué le sujet, mais on l'a pas vraiment traité, les 10 000 heures, ça ne marche pas. Ça marche pour apprendre une langue, oui. Si vous faites 10 000 heures d'italien, vous parlerez mieux italien que si vous faites 0 heure. Mais ça marche pas pour atteindre n'importe quel style d'excellence. Vous ne deviendrez pas Zidane même en faisant 10 000 heures de roulette ou en faisant 10 000 heures de foot. Ça ne fonctionne pas parce que, tout simplement, vous n'êtes pas câblé pour. Alors ensuite, sur le... Comment dire, cette ouverture dont vous parlez, c'est pour ça que moi j'aime bien cette métaphore de la mer. Et pour d'autres, ce sera autre chose. Pour d'autres, ce sera la montagne. Pour d'autres, ce sera l'air. Gaston Bachelard disait que chacun avait un élément qui dominait son imaginaire et qui lui rendait la vie plus facile, plus confortable. Et il avait cette phrase extraordinaire. Il dit le plaisir, oui, est immédiat, mais le bonheur s'apprend. Et le bonheur s'apprend en apprenant à imaginer bien. Et il y a une manière de conduire son imagination, de fréquenter certaines images littéraires, plutôt, vous voyez, des poétiques ou des images mentales, qui font que la vie va être plus facile. Et c'est plus du tout une compétition. Il ne s'agit pas de faire des efforts physiques. Il s'agit d'imaginer qu'on s'envole, par exemple, et de faire ça très progressivement. Il a travaillé avec un psychiatre qui s'appelle Robert Desoil, ou Desoil, je sais pas comment on prononce, qui avait inventé une méthode, non pas de psychanalyse, c'est-à-dire non pas de ressassement pour découvrir l'origine de sa souffrance, mais de psychosynthèse, qui consistait en s'exposant à des images, pas simplement positives, on fait pas de la psychologie positive, il y a aussi, on affronte aussi les profondeurs, mais en faisant une exploration imaginaire, arriver à se rendre la vie plus légère.
Et alors pour vous, Olivier Pourriol, votre élément, c'est plutôt l'eau, la terre, le feu ?
Moi, c'est l'eau, oui. Moi, c'est l'eau, et j'ai découvert tard, d'ailleurs, parce que j'aimais pas nager. Premier contact avec la piscine, c'était l'angoisse. C'est la piscine scolaire, obligatoire, avec le maître nageur, avec la barre devant vous. Il y a cette espèce de but atroce, il y a une barre, et puis on la recule, et puis on la recule, et puis vous avez l'impression de vous noyer. Alors, vous devriez apprendre à aimer l'élément. Le bonnet de bain, tout ça, c'est des souvenirs atroces. Et puis, j'ai habité au bord de la mer par les hasards de la vie de mes parents. J'ai commencé par refuser à y aller pendant un an ou deux. Je me suis pas baigné. Et puis, j'ai commencé à aimer l'idée d'aller sous l'eau. Vous voyez, et j'ai commencé à aller pêcher des poissons avec des copains en troisième qui savaient ce qui se passait sous l'eau. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et l'idée d'aller sous l'eau pour comprendre ce qui se passait, là, soudain, j'avais un but. Et en allant sous l'eau, ben, je me suis retrouvé à maîtriser la surface parce que il fallait s'éloigner du bord pour pouvoir descendre et puis voilà, faire de l'apnée. Et maintenant, je veux dire que sans la mer ou sans l'eau, j'ai du mal à imaginer une vie heureuse.
Vous écrivez justement très joliment dans votre livre Facile qu'il faut réussir à se mettre dans le sillage de quelqu'un ou de quelque chose.
Ben, c'est-à-dire que comme commencer est impossible, on sait bien, le secret de l'action c'est de s'y mettre. Pourquoi ? Parce que s'y mettre est compliqué, on cherche toujours à se préparer à l'action. Donc c'est beaucoup plus simple de continuer quelque chose qui est déjà commencé. Et c'est le secret par exemple de Stendhal, il savait que c'était impossible de commencer, donc il commençait par continuer ce qu'il avait fait la veille, ou par lire un article, par commenter l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et puis soudain on est lancé, et là on commence à avoir des idées. Francis Bacon faisait la même chose, son atelier était dans un désordre incroyable, parce que ça lui permettait, dès qu'il rentrait dans l'atelier, de marcher sur quelque chose qui n'était pas fini, de le ramasser et de le finir, de commencer, voilà, de continuer.
Oui, c'est ce que vous écrivez, ne pas commencer mais continuer.
Oui, c'est le deuxième secret de l'action, c'est Alain qui résume ça comme ça, il dit en fait ça se résume à deux mots et si vous ne retenez que ça aujourd'hui, ça suffira à avoir fait votre journée. Le secret de l'action, c'est premièrement continuer, deuxièmement commencer. Il dit attention, dans cet ordre-là, il faut commencer par continuer, parce que tout est déjà commencé. Par exemple, marcher, c'est rattraper une chute. Et une fois que vous êtes en train de continuer, vous apercevez que vous avez déjà commencé.
Je vais lire un extrait de votre livre et ça nous permettra d'entendre bien votre prose, car je précise que c'est ce que j'aime beaucoup chez vous, vous êtes aussi romancier. C'est un paradoxe immense et le vrai secret des hommes et des femmes d'action. Ils agissent précisément parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le savent bien un peu. Sinon, ils ne se lanceraient pas, mais s'ils le savaient complètement, ils n'auraient plus besoin de le faire. Ils n'agissent pas parce qu'ils savent, mais pour savoir. Ils sont les premiers spectateurs de ce qu'ils font, comme s'ils assistaient à leur propre vie, tout en la pilotant. Le plaisir de l'action, c'est de se surprendre soi-même, de découvrir aussi bien ce que seule l'action permet, un nouveau chemin pour le grimpeur, que ce que l'action révèle de soi, courage, peur, etc. Quand on agit, on est toujours le premier surpris. Ce qui ne signifie pas rester passif. Au contraire, c'est en faisant attention à ce qui m'arrive que je réoriente ma course, que je m'adapte par de nouvelles décisions, comme un marin ne cesse de se régler sur la vague et sur le vent. Agir, ce n'est pas avoir pris une grande décision une fois pour toutes, mais ne cesser de prendre de petites décisions en fonction de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Faire, c'est ne jamais cesser de faire et toujours faire au mieux.
Oui.
Vous êtes d'accord avec vous-même ?
Non, mais c'est ça. Vous voyez, là, on est loin du premier de l'an, etc., du moment des grandes résolutions. Ouais. Mais on sait que les grandes résolutions ne tiennent pas. Ce qui tient, c'est les petites décisions. Et c'est les petites décisions qui changent vraiment la vie parce qu'elles sont plus faciles à tenir.
Olivier Pourriol, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, de vous être placé aussi dans le sillage d'Eschyle, ce qui est divin et sans effort, citez-vous dans votre joli livre facile. La philosophie de la vie que vous nous avez fait entendre ce matin, je vais essayer de la résumer. Une philosophie justement, je dirais, avec du sens du réel. Mais ce réel, on ne l'approche que par l'imaginaire, on ne l'approche que par le rêve, on ne l'approche que par la connaissance de soi. L'effort, oui, mais l'effort de la fidélité à ce qui compte pour soi, à ce qui me ressemble, à ce qui me permet de me développer. Exister dans la facilité, c'est se mettre dans le sillage de quelqu'un ou de quelque chose. On sent en vous lisant aussi que vous êtes un grand admirateur, un admirateur d'Alain, un admirateur de Simone Veil, un admirateur de Descartes d'ailleurs. Et on a l'impression qu'aussi c'est ça qui rend la vie facile, c'est d'avoir des étoiles qui nous guident pour se placer dans leur sillage, sur une mer qui rassure, enveloppe et nous élève en même temps. Merci beaucoup Olivier Pourriol. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Benjamin Troncin, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sous le soleil exactement, dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon.